L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business avant notre World Tour qui nous emmènera à Miami et notre French Tech Tour. Et puis, juste après, ce sera la rédaction de 01net.com. Avant tout cela, notre passion selon Sonnet et on va parler de la face cachée de la gratuité. Et oui, vous vous dites que lorsque vous bénéficiez de services gratuits, c'est vraiment gratuit. Eh bien, non. Parce que forcément, toutes les données que vous allez pouvoir transmettre, toute cette big data, il y a des gens qui vont s'en servir et cette data a une valeur. On va en parler, Lila, avec notre invité.
Mais oui, tout à fait, avec Franck Cazenave. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert big data et automobile et vous avez également écrit l'ouvrage Stop Google, paru chez Pearson. Alors, petite piqûre de rappel, en vrai, le gratuit, c'est payant ? Comment ça ?
En fait, d'une certaine manière, c'est payant parce que le gratuit, les services gratuits comme la messagerie, par exemple, l'email, en fait, on abandonne des données à des fournisseurs de services. Si vous êtes sur Gmail, dans les conditions d'utilisation du service...
Que personne ne lit, bien sûr, parce que ça fait...
Parce qu'il y a 50 pages sur la confidentialité, voilà. Les usages, etc. Et en fait, il vous est dit que Google scanne vos emails et les utilise ces informations pour pouvoir vous proposer des services. Donc, en fait, vous payez de l'abandon de vos données, même de l'abandon de la confidentialité de vos communications. Parce que quand Google utilise ces données, c'est un peu comme si votre facteur prenait un courrier qu'il allait mettre dans votre boîte aux lettres, il l'ouvre, il le lit, il le photocopie pour l'archiver, mais aussi pour l'utiliser pour vous proposer d'autres services. Et c'est comme si grâce à ce courrier, il vous mettait dans votre boîte à lettres d'autres courriers, mais qui étaient ceux-là commerciaux. Et donc en fait, Google se rémunère grâce à des annonceurs qui paient de la publicité, qui est ciblée grâce aux données collectées sur les individus.
Ah, je pensais que moi, en fait, Google scannait que certains mots-clés dans nos mails, et que c'était pas, enfin, que la confidentialité des mails... Et était malgré tout préservé.
Eh bien non, François. Donc je vous invite à lire les conditions de confidentialité de Google. Et d'ailleurs, il y a la loi numérique qui est proposée par Axel Le Maire, qui a fait d'ailleurs l'objet d'un débat public avant que ça ne vienne au Parlement l'année prochaine. Et il y a un article où la secrétaire d'État propose la confidentialité des emails. C'est justement pour répondre à cette problématique. Donc il y a de nombreux fournisseurs d'emails, de services de messagerie, en fait, qui utilisent le contenu de vos emails pour mieux connaître le goût des individus, ce qui les intéresse en ce moment, pour pouvoir leur proposer de la publicité.
Donc sur Gmail, par exemple, l'aspect confidentiel du mail n'existe pas.
À partir du moment où on scanne vos données pour le service, alors ça ne veut pas dire que Google publie vos emails à d'autres personnes, à des tiers. Non, il l'utilise pour lui-même, pour ses services, pour cibler de la publicité le contenu de vos emails.
Okay.
Et il scanne aussi les pièces jointes. Donc c'est pas seulement l'email. C'est les pièces jointes aussi que vous mettez dans vos emails.
D'accord. Si par exemple, Franck, je vous envoie la pièce jointe d'un camion que j'ai envie de vous offrir.
Par exemple.
Bah peut-être qu'après, je recevrai des propositions de camions en promo.
Ou moi, parce que c'est moi qui aurais reçu la photo de ce camion, en fait, que j'ai envie d'avoir.
Eh bien, Lila.
C'est assez.
Vous avez une adresse Gmail ?
Ah, bien sûr, depuis de très nombreuses années.
Et tout comme moi et comme beaucoup d'entre nous. Et
bon, pas moi. J'ai une autre adresse. Alors, c'est pas très fashion, mais La Poste, par exemple, vous garantit la confidentialité de vos courriers par sa messagerie.
Et d'ailleurs, La Poste communique énormément là-dessus depuis un certain temps. Et on revient en fait à la confidentialité d'un message délivré par le facteur, en fait.
Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on y revient ? Pas sûr encore, parce que les modèles de business comme Google sont très forts. Gmail, c'est 500 millions d'utilisateurs dans le monde, donc c'est colossal. Mmh. Mais effectivement, aussi avec la loi numérique, avec le débat sur la confidentialité des données, des emails, je pense que ça c'est de plus en plus dans le débat public.
Alors, ce que vous écrivez dans votre ouvrage Stop Google, vous allez encore plus loin. Vous dites que Google, non content de dominer déjà le monde digital, serait en train de s'attaquer au monde réel et que la voiture, dans cette bataille de la conquête du monde réel, la voiture serait le Saint Graal.
Tout à fait. Avant quand même, le lien avec le monde réel avant la voiture, c'est déjà le smartphone. Parce que ce que j'explique dans mon livre, c'est que le smartphone, c'est un vrai aspirateur à données personnelles. Mm-hmm. Parce que vous êtes géolocalisé en permanence. Ça permet de savoir où est-ce que vous êtes, qu'est-ce qui vous intéresse, et donc de cibler vos informations qu'on veut vous amener. Donc la voiture, c'est le deuxième objet clé de la mobilité avec le smartphone des individus. Donc c'est ça qui intéresse Google, être dans la mobilité, et puis au-delà de la mobilité, de devenir pour moi le booking du monde réel. Ça veut dire l'intermédiaire entre les consommateurs et les points de vente. Mmh. Aujourd'hui, Google capte 10% du marché mondial de la publicité grâce à nos données. Il peut cibler des publicités. Donc c'est plus de 50 milliards de dollars qui sont captés par Google du marché de la publicité. Mais il y a un marché plus phénoménal que celui-là. C'est de vous guider vers un commerçant pour un achat déterminé. Et dans ce cas-là, Booking prend 20% des chambres d'hôtel que vous réservez sur sa plateforme. Mmh. Bah, Google pourrait prendre un pourcentage sur vos achats parce qu'il vous aurait amené dans ce lieu de consommation. Et c'est là où la voiture, elle est très intéressante, puisqu'il y a 1,4 milliard de voitures dans le monde et que c'est le premier moyen de transport utilisé par les individus. Donc certes pour se rendre au travail, mais aussi pour faire des courses, pour aller sur des lieux de consommation et aussi de loisirs. Et donc être l'intermédiaire, c'est ça qui intéresse Google. Et ça va se faire par plusieurs étapes. La première, Android va devenir une plateforme dans l'automobile pour connecter les voitures, hein, avec Android Auto. Mmh. Et donc vous pouvez avoir des services de Google, dont la cartographie, dont Google Maps, qui va venir sur la voiture.
Et Waze aussi.
Tout à fait, Waze appartient à Google, c'est plusieurs millions.
Ça leur a coûté un petit peu cher d'ailleurs, 1 milliard je crois.
Plus d'un milliard effectivement.
Voilà,
mais il y avait
rentabiliser.
Il y avait la concurrence aussi avec Apple, ouais. Facebook. À l'époque, il y avait eu des rumeurs, voulaient racheter Waze, et finalement c'est Google. Et on voit bien maintenant, plusieurs années après le rachat de Waze, l'intérêt stratégique de la cartographie. Parce que la cartographie, c'est ce qui nous permet de comprendre ce qui nous entoure, de décider où est-ce qu'on va aller. Donc aujourd'hui, on n'utilise plus des cartes Michelin papier. Mmh. On utilise tous notre smartphone. Et donc, soit on utilise notre smartphone dans la voiture, soit la cartographie qui est dans la voiture. Mmh. Et sauf que Waze, par exemple, ou Google Maps, donne de l'infotrafic en temps réel, qui est très pertinente. Donne même des informations sur des zones de danger gratuitement, alors qu'il y a d'autres services payants comme Coyote.
Ouais, oui, bien sûr.
Donc, ce sont des cartographies très intéressantes, utilisées sur les smartphones. Et puis, grâce à Android Auto, vous allez pouvoir retrouver ce qu'il y a sur votre smartphone, sur l'écran de la console centrale de votre voiture. Ça, c'est la prochaine étape.
Et puis, en plus, la pub, alors juste une chose, on en parlait juste avant, la pub sur Waze, elle est de plus en plus présente. C'est-à-dire que moi, qui suis un utilisateur de Waze à Paris, ça, franchement, ça fait gagner du temps. Ben, on a de plus en plus des petits bandeaux de publicité qui apparaissent.
Et puis, François, je ne sais pas si vous avez noté, ce qui est récent et intéressant, c'est que maintenant, Waze vous dit, si vous allez à tel endroit où vous voyez le petit bandeau publicitaire, ce détournement va
allonger votre trajet.
Voilà, de temps de minutes.
Ouais, voilà,
et donc ça devient de plus en plus précis, de plus en plus incitateur. Mais ça reste sur le smartphone. Alors que si demain vous l'avez sur la console
l'écran
centrale,
de la voiture, ouais,
ça deviendra, disons, beaucoup plus incitatif. Mmh. Donc ça, c'est vraiment pour Google le moyen de développer son business model grâce à la voiture.
Et dans ces services de navigation, est-ce que les constructeurs automobiles n'ont pas leur mot à dire ? Vous citiez dans Stop Google le cas de Navtech qui travaille depuis nombreuses années avec pas mal de constructeurs. Comment ces constructeurs automobiles comptent répliquer ?
Alors Navtech, c'est HERE, donc ça appartenait à Nokia, qui a été racheté par un consortium Audi, BMW et Daimler. Donc les constructeurs automobiles ont pris conscience de la valeur de la cartographie et ont racheté l'acteur numéro un de la cartographie des véhicules. Mmh. HERE, c'est 80% de la cartographie des véhicules commercialisés aujourd'hui. Bon, donc ils ont réagi. La problématique, c'est que d'un côté, vous avez HERE qui fait payer des licences aux constructeurs, et d'un autre côté, vous avez 35 marques automobiles qui ont signé avec l'association Open Alliance Automotive de Google. Et ces 35 marques vont mettre Android Auto sur leurs véhicules. C'est-à-dire que les applications... C'est-à-dire que les applications qui sont sur le smartphone vont être disponibles sur l'écran du véhicule. Attention, des applications compatibles avec la conduite. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas voir de film. Mais vous allez avoir Google Maps. Et d'un autre côté, pour un constructeur, soit vous achetez une licence qui vous coûte plusieurs dizaines d'euros, soit demain, avec Android Auto, c'est le consommateur qui va décider quelle cartographie il va utiliser. Et dans ce cas-là, ça peut être une économie aussi pour des constructeurs. Donc, c'est permettre aux consommateurs d'avoir le choix. Et c'est aussi potentiellement une économie. Donc on voit bien que grâce à Android Auto, grâce à la connectivité dans la voiture par le smartphone, Google Maps peut devenir la cartographie, ou Waze, on en a parlé, la cartographie de référence pour le monde automobile, alors que jusqu'à présent c'était HERE, parce que HERE était embarqué directement dans le système de navigation de la voiture.
Impressionnant tout ça, hein, et passionnant, hein. Et on voit que ce n'est que le début. Mais alors, si on prend par exemple des concurrents directs de Google comme Apple, qui eux ont des services aussi de cartographie qui sont de plus en plus évolués, alors peut-être pas au niveau de celui de Google, mais qui investissent énormément. Eux, leur particularité, c'est justement qu'ils ne vont pas vendre ces données. Ou est-ce que malgré tout, ils vont aussi ou s'en servir pour eux, ou un petit peu les commercialiser?
Alors d'abord, Apple Plan, au début quand c'est sorti, ça a été un flop. Si bien que Apple a été obligé d'autoriser
Google Maps à ses utilisateurs.
Et d'autoriser Google Maps dans son écosystème, alors que c'était pas possible. C'est première chose. Mm-hmm. Deuxième chose, aujourd'hui, Apple Plan utilise beaucoup TomTom comme service de cartographie. Donc c'est-à-dire que Apple n'a pas injecté autant d'argent que Google sur la cartographie. Ils ont besoin d'avoir un partenaire comme TomTom. D'ailleurs, TomTom, au début, a été le partenaire de Google pour Google Maps. Et après, Google s'est affranchi de TomTom avec ses propres moyens. Donc, ça, c'est déjà au niveau, la différence stratégique entre Apple et Google. Et puis après, l'autre différence, c'est que à aujourd'hui, Apple n'utilise pas vos données personnelles pour les valoriser auprès d'annonceurs.
Aujourd'hui, en tout cas. Peut-être que ça changera.
Voilà, on peut parler pour aujourd'hui. Je ne peux pas décider de l'avenir et on verra ce qu'il en sera.
Eh bien, merci beaucoup. Bon, Lila,
il
faut faire attention quand on prend la voiture.
Attention.
Alors. Et attention au Gmail, donc. Même si, au-delà de ça, c'est un excellent service, hein, Gmail. Hein.
Tout à fait, mais voilà. C'est pour ça qu'il a remporté autant de succès.
Il remporte autant de succès. On est d'accord. Merci beaucoup. Et vous restez avec nous. La suite de cet atelier, dans un instant sur BFM Business. Vous restez là. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Eric Le Bourlou, la rédaction de Zeronet.com, sera là dans un petit quart d'heure environ. On jettera un œil sur les gros titres d'actualité de cette semaine, vu sur Zeronet. Notre French Tech Tour aussi, on va parler de bourse, de levée de fonds et de start-up. Dans quelques minutes, mais auparavant, notre World Tour avec Aurore Géraud et notre invité. Direction, allez, on y va, les US, Miami et New York. Aurore.
Oui, alors nous sommes avec Alex Farcé, qui est cofondateur de Startup Bootcamp. Alex, bonjour.
Bonjour.
Alors, Startup Bootcamp, tout le monde connaît, c'est un des accélérateurs les plus grands d'Europe. Ils viennent de s'installer à Miami cette année. Alors, Alex, pourquoi les États-Unis maintenant?
Écoutez, on pense être prêt. Et puis d'avoir un petit cocorico franco-européen, un petit français du fin fond de sa forêt au Danemark qui lance un programme en 2010. Et maintenant, on a 12 programmes. On a une dizaine de programmes en Europe et on pensait, notre stratégie, c'était d'être global. Nous avons lancé un programme à Singapour cette année. On était prêt pour les États-Unis et Miami s'est présenté. On a sauté dessus.
C'est donc une suite logique dans le développement. Mais alors, pourquoi Miami? Pourquoi pas San Francisco, classique?
C'est de l'opportunisme quelque part. D'abord, nous travaillons sur San Francisco, bien sûr. C'est évident qu'on doit être, à la Mecque des startups un jour ou l'autre. Mais Miami s'est présenté. Franchement, c'était pas sur le radar. Mais on m'a convaincu d'aller voir. J'y suis allé 3 fois en 3 mois. Et en fait, c'est un écosystème. En fait, tout l'art, c'est d'arriver ni trop tôt ni trop tard. Et on pense que, en lançant le premier programme accélérateur vraiment de renommée avec une ambition globale sur cet écosystème, on pense qu'on peut vraiment peser, faire partie de, de la genèse de l'écosystème. Et puis ça fait pas de mal que la Knight Foundation nous offre une subvention de 2 millions de dollars. On leur a dit que on leur a proposé de trouver la même somme en fonds privés, c'est ce qu'on a fait, et voilà, c'est parti.
Et du coup, il y a une spécialisation dans la e-santé. Est-ce que c'est une expertise que vous trouvez particulièrement à Miami, ou c'est suite à un besoin particulier dans cette région?
Oui, il y a deux choses. Ça fait partie de notre stratégie. C'est que maintenant, chacun de nos programmes est spécifique, concentré sur un thème spécifique. Mmh. Et notre stratégie, c'est de multiplier ces thèmes, enfin, le même thème, sur plusieurs écosystèmes différents. Donc, en fait, on travaille en parallèle sur un programme de santé digitale à Berlin. Miami, c'est évident que la Floride, il y a un énorme marché de santé. Et puis, Miami, c'est aussi le Hong Kong de l'Amérique latine. Donc, comme plateforme de lancement pour faire plusieurs programmes sur ce thème, mais aussi géographiquement sur les États-Unis et l'Amérique latine, c'est super intéressant. Mmh. Et puis c'est une espèce de pot-pourri culturel. On entend du français, des russes, des cubains. C'est très cosmopolite, et je pense que c'est ce qui a attiré la fondation Knight, c'est-à-dire, ok, on pourrait amener un accélérateur américain, mais en fait on est un petit peu un îlot international, et on veut des gens qui pensent de manière plus globale. Donc on était bien positionnés. Et puis santé digitale, non, c'est très intéressant. Il y a 54 millions d'Hispaniques aux USA, et je pense pas que c'est le premier marché sur lequel se concentre un entrepreneur qui fait de la santé digitale, qui fait une app ou une plateforme digitale pour la santé. Et donc il y a une espèce de besoin qui n'est pas servi, et une opportunité de faire quelque chose d'intéressant.
Alors, vous avez une petite annonce. Vous comptez vous développer autre part aux États-Unis?
Oui, alors on annonce cette semaine que nous lançons New York. Donc, New York, c'est un programme fintech, donc technologie financière. Mm-hmm. Et en fait, c'est le plus bel exemple de notre stratégie d'avoir ces thèmes sur plusieurs écosystèmes. C'est qu'on a lancé fintech Startup Bootcamp à Londres l'année dernière. Donc, on vient de faire notre deuxième programme à Londres. Mm-hmm. On a fait fintech à Singapour, qui a très bien marché cette année, on continue. Et maintenant, nous faisons fintech sur New York. Donc, on a maintenant une vue de ce qui se passe en Europe, en Asie, aux États-Unis. Et bien sûr, on travaille sur le Mexique, sur l'Inde. Il y a même des conversations sur l'Australie. Donc, notre stratégie, c'est vraiment d'avoir une vue en profondeur sur un thème, fintech, par exemple, et aussi en largeur géographique sur plusieurs écosystèmes. Et tout ça, ça commence à devenir très intéressant pour nos partenaires, pour les entrepreneurs eux-mêmes, bien sûr. Mmh. Puis tout l'écosystème autour de Startup Bootcamp.
Et il n'y a pas trop de concurrence à se lancer à New York?
Si, bien sûr, ça fait un peu peur, mais pourquoi pas, pourquoi encore un petit cocorico, on est prêt, on est européen, on fait bien ce qu'on fait, et il y a de la concurrence, mais il n'y a pas beaucoup de programmes qui ont vraiment cette vue globale, d'ensemble, sur ce qui se passe sur la fintech, et c'est pour ça qu'on a réussi à avoir Mastercard et Rabobank et Thomson Reuters et d'autres pour soutenir le programme de New York, parce que je pense qu'on est un petit peu différent, plus global.
Merci Alex Farcé de nous avoir répondu aujourd'hui.
Merci à vous.
À bientôt.
Parfait, merci beaucoup. Et après donc notre World Tour, place à notre French Tech Tour. Aurore, on va maintenant s'intéresser aux levées de fonds et à la bourse. Quels avantages pour les startups finalement?
Oui, avec nous Eric Forest, donc qui est CEO de Enternext, qui est une filiale de l'opérateur financier Euronext. Bonjour Eric.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous dire déjà dans un premier temps ce qu'est Enternext?
Oui, en quelques mots, Enternext, créé il y a 2 ans et demi maintenant, filiale, comme vous l'avez rappelé, de l'opérateur de marché qui est Euronext, filiale dédiée aux valeurs moyennes pour les accompagner sur les marchés financiers, pour faire beaucoup de pédagogie, de proximité avec ces jeunes entrepreneurs, pour parler avec eux des marchés et l'utilisation qu'ils peuvent faire des marchés financiers pour supporter leur croissance et leur développement.
Donc concrètement, quel type de service vous délivrez? Je crois qu'il y a quelque chose qui s'appelle TechShare chez vous.
Alors, vous avez raison. Nous couvrons l'ensemble des valeurs moyennes, mais depuis maintenant un an, nous avons mis un accent particulier à destination des entreprises technologiques innovantes, pour mieux les accompagner, et parce que nous sommes convaincus qu'il y a un énorme potentiel en matière d'entreprises technologiques innovantes en France et en Europe, et qu'aujourd'hui les marchés ne représentent pas encore tout le potentiel justement qu'ils peuvent offrir à ces jeunes entreprises. Donc nous avons décidé il y a maintenant un peu plus d'un an un certain nombre d'initiatives pour aider ces entreprises à avoir davantage de visibilité auprès des investisseurs. Donc ça, ça concerne notamment nos entreprises déjà cotées, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises techno déjà cotées, plus de 300 aujourd'hui sur les marchés Euronext, et qui ont besoin de visibilité parce qu'elles sont sur des modèles économiques, sur des marchés très novateurs, très disruptifs. Donc il y a un travail aussi de pédagogie à faire auprès des investisseurs. Et puis, vous avez raison, nous avons lancé en septembre dernier, donc là, c'est la dernière initiative, la plus récente, un programme d'accompagnement qui s'appelle TechShare, programme d'accompagnement d'entreprises tech non cotées, pour les aider à mieux se préparer au marché financier pour le jour où elles décideraient d'y aller et de se financer par la bourse. Donc c'est un programme de coaching, un programme effectivement d'éducation autour des marchés financiers pour aider ces entrepreneurs à mieux comprendre le monde des marchés financiers, ce qu'il veut dire, la façon dont on l'approche, dont ils doivent l'approcher le moment venu, et pour en faire en sorte que le jour où ils décideront de se coter, de réaliser des transactions en bourse, ils soient plus à l'aise avec ce monde qui n'est pas leur aujourd'hui.
Alors, on a vu que Showroom Privé venait de se lancer. Est-ce que la bourse, c'est le Graal ?
Le Graal, certainement pas, ne serait-ce que pour une raison simple. C'est que le Graal, pour moi, c'est l'aboutissement de quelque chose. C'est la quête, effectivement, de l'absolu, et c'est l'aboutissement d'une vie ou d'une œuvre. La bourse, à l'inverse, c'est le commencement d'une histoire boursière. Donc, l'introduction en bourse, c'est une nouvelle étape dans le développement d'une entreprise qui commence sur les marchés financiers avec une introduction en bourse. Et ensuite, tout l'intérêt des marchés financiers, c'est de permettre justement à ces entreprises, au fur et à mesure de leur développement, de continuer à utiliser les marchés. Donc, je ne parlerai pas de Graal, puisque on est dans une expression qui laissera à penser qu'après ce Graal que serait l'introduction en bourse, plus rien ne peut arriver. Non, au contraire, c'est le début d'une histoire.
Et voilà, c'est l'histoire qui commence, en fait.
Exactement.
Bien sûr. Ouais.
Alors, on a vu que Deezer et Oberture, plus récemment, ont calmé un petit peu leur volonté de se lancer, ont ralenti. Est-ce qu'il y a un bon moment pour se lancer ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de brûler des étapes quand on est une start-up ?
Alors, dans votre question, il y a plein de questions, en fait. Bien sûr, il y a un bon moment, mais avec des facteurs exogènes et endogènes. Il y a bien sûr un environnement de marché général qui peut faire qu'à certaines périodes le marché est un peu plus difficile, et puis il y a des considérations qui sont intrinsèques à l'entreprise qui envisage de venir en bourse. Je reviendrai pas sur les reports des opérations Deezer et Oberture qui concernent des industries différentes, des entreprises différentes, et donc il serait prétentieux et surtout faux de vouloir en tirer des conclusions générales, puisqu'aujourd'hui les marchés sont ouverts, en tout cas en matière d'introduction en bourse. Après, dans votre question de griller les étapes, vous avez raison, c'est une excellente question. Il faut être prêt pour venir en bourse. Ça veut dire quoi, être prêt? Bon, il y a un processus, on va dire, technique à réaliser. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Notamment, les entreprises, dans ces cas-là, s'entourent de conseils qui vont les aider à réaliser ce processus. Mais il faut surtout que l'introduction en bourse s'insère complètement dans une stratégie et un développement, une phase de développement de l'entreprise. On ne vient pas en bourse pour réaliser une opération en coup de poing. On vient en bourse pour lever des fonds, pour financer sa croissance, son développement. Donc encore faut-il que ses besoins s'inscrivent complètement et logiquement dans une phase de développement et de croissance de l'entreprise.
Donc il faut être en quelque sorte à une croisée des chemins, c'est-à-dire être en phase de croissance.
Tout à fait, puisque ce qui va intéresser les investisseurs dans le cadre d'une introduction en bourse, c'est bien l'histoire de croissance et de développement que va présenter l'entreprise. Donc le béaba, c'est d'avoir à minima une histoire de croissance et de développement à présenter.
Et quelle est la différence entre une introduction en bourse et une levée de fonds classique ?
Privé, vous voulez dire, ouais. Private equity. Alors, il ne faut surtout pas opposer les deux. On n'est pas en opposition, on est beaucoup plus en complémentarité. J'en prendrai comme illustration le fait que plus de 90% des sociétés qui rejoignent nos marchés dans le cadre d'une introduction en bourse ont en fait à leur capital des fonds de private equity. Ça veut dire qu'avant de venir sur les marchés, elles ont réalisé 1, 2, 3 tours de table privés pour financer leurs premières étapes de développement. Et je crois qu'on en revient à votre question précédente de griller les étapes. La bourse, effectivement, devient plus naturelle à partir du moment où l'entreprise a franchi un certain nombre d'étapes dans le développement de son activité, de son métier, et a besoin pour les étapes suivantes de montants plus significatifs.
Très bien, mais merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci pour toutes ces précisions, Eric Forest. Rappelons que vous êtes le PDG d'Internext, exactement. Aurore, on se retrouve dans un instant et on va poursuivre cet atelier numérique avec la rédaction de Zeronet.com dans une minute. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Merci d'être là, de plus en plus nombreux d'ailleurs, chaque samedi entre 16h et 18h pour ce rendez-vous dédié aux nouvelles techno et à l'éco numérique. Avant d'en trouver le crash test d'Antoine et notre rendez-vous avec Lila, eh bien, direction la rédaction de Zeronet.com. Comme chaque samedi après-midi, vous le savez, il est à mes côtés. C'est Éric Le Bourlou. Bonjour Éric.
Bonjour.
Éric Le Bourlou, donc rédacteur en chef du pôle actu sur Zeronet.com, premier site d'actualité high-tech en France, il faut le signaler. Et on va revenir sur les événements dramatiques qui se sont déroulés vendredi 13 novembre. Éric, avec un élan de solidarité sur les réseaux sociaux concernant ces attentats de Paris, c'est du jamais vu. On
a
l'impression.
C'est du jamais vu. Alors c'est pas en plus. Alors il y a eu évidemment juste après les événements effectivement, ne serait-ce qu'à Paris, un élan de solidarité incroyable. On l'a vu avec ces Parisiens qui ouvraient leurs portes via Twitter et Facebook.
Mais c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs actes, en fait. Hein, l'acte d'urgence pour aider les gens qui étaient vraiment dans des situations de détresse incroyables.
Voilà, qui cherchaient, en fait, qui étaient un petit peu en panique à Paris vendredi soir et qui cherchaient, pourquoi pas, se réfugier chez des gens qui habitaient pas loin.
Et donc, l'information aussi, ça a permis à plein de gens de savoir, de vivre pratiquement en temps réel ce qui se passait.
C'est vrai que c'était incroyable et c'est on peut dire que malgré toute cette horreur, c'est vrai qu'on a beau dire, c'est vrai que les réseaux sociaux ont quand même mis un petit peu de baume au cœur, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même ça aidait quand même à la solidarité de voir que sur Twitter, sur Facebook, les gens utilisaient ça pour communiquer, pour s'entraider finalement. Mais c'est vrai que ça allait très très loin, puisque la puissance d'internet, c'est vrai que les attentats de Paris ont aussi eu un impact mondial, c'est incroyable ce qu'on a pu voir un peu partout à l'étranger. Et puis évidemment alors tous les sites évidemment ont repris un petit peu aussi le bandeau noir, où ont changé leur logo, et ça allait très loin, puisqu'on a vu Google qui s'est mis aux couleurs de la France, qui a mis un petit bandeau noir. On a vu aussi Facebook, on a vu aussi Amazon, eBay, tous ces gens-là, en fait,
Apple aussi
ouais. Exactement, ont souligné via leur site web leur solidarité avec la France, avec les Français qui ont été victimes de ces attentats.
D'ailleurs, la plupart des pays aussi, de manière physique, ont rendu hommage en affichant, on l'a vu, sur les plus grands monuments du monde, le drapeau tricolore.
On s'est retrouvé effectivement aussi avec un web, on va dire, aux couleurs de la France et qui existe toujours. Alors il y a aussi eu effectivement quelques petites choses intéressantes qui ont été notamment proposées par Facebook. Facebook a mis pour la première fois aux attentats de Paris son système de vérification, qui a permis de dire
le bouton urgence qui a bien marché
et qui a permis effectivement aux gens de rassurer immédiatement leurs proches, leurs amis Facebook, pour juste leur dire je n'ai pas de problème, je suis en sécurité. Il y a eu quelques petites critiques d'ailleurs vis-à-vis de cette fonction, puisque quelques jours avant il y a eu des attentats à Beyrouth. Facebook n'avait pas fait.
Il y a eu des dizaines de morts aussi, bien sûr.
Voilà, exactement. Maintenant, en fait, Facebook, c'était la première fois à Paris qu'il lançait cette fonction pour autre chose qu'une catastrophe naturelle. Donc voilà, Zuckerberg a annoncé maintenant qu'il le ferait aussi dans le cadre de catastrophes de type attentat, par exemple. Donc c'est comme ça qu'ils l'ont expliqué, en tout cas. On a eu en tout cas quelque chose d'assez incroyable sur les réseaux sociaux, qui a effectivement donné un peu de baume au cœur. Durant ces événements assez assez horribles.
Voilà. Espérons qu'on ait le moins souvent possible l'occasion d'utiliser ce bouton orange et en tout cas urgence de Facebook. On va rester dans les attentats de Paris avec évidemment la réponse, on va dire, numérique, virtuel d'Anonymous, le célèbre groupe de hackers, des gentils hackers, rappelons-le,
plutôt gentils,
on va dire, qui ont décidé eux-mêmes de mener la guerre contre Daesh.
Oui, parce que c'est vrai qu'il faut dire que Daesh est extrêmement présent sur les réseaux sociaux, c'est même une de leurs particularités, ils font de la propagande sur le net à une très grande échelle, ils sont très présents sur Twitter, très présents
avec
sur Facebook.
Avec énormément de vidéos aussi.
Voilà, beaucoup de vidéos, c'est comme ça qu'ils diffusent leur message, et effectivement ils profitent un peu du système. Et les Anonymous se sont dit, on va essayer de les prendre leur propre jeu, on va essayer de leur faire la guerre, de leur faire leur guerre en virtuel sur internet. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont déclenché une opération. Anonymous fonctionne par opération, donc ils ont appelé ça l'opération Paris. Et effectivement ce qu'ils ont souhaité faire, c'est soit tenter de fermer un maximum de comptes, de reporter en fait à Twitter, à Facebook, un maximum de comptes djihadistes. Donc
Et c'est Facebook s'est empressé de les fermer.
Alors c'est pas si facile que ça.
Il y a une procédure.
Il faut que Facebook vérifie. Mais effectivement, il y a des comptes qui ont été fermés. Mais en tout cas, ils ont donné une liste de compte qu'ils ont transmis à la fois à Facebook, mais aussi à des autorités locales, notamment aux autorités françaises, et qui a permis en fait de faciliter quand même un peu le travail pour de retrouver parfois, parce qu'on sait que les djihadistes sont très très mobiles aussi sur les réseaux sociaux, peuvent changer de compte Twitter très rapidement, emmènent leur communauté avec eux. Quand un compte Twitter est fermé, ils en rouvrent un autre aussitôt. Donc c'est vrai que c'est compliqué de les suivre. Mais Anonymous s'est pas arrêté là. Ils ont aussi créé des guides parce qu'il y a plein de voilà de nouveaux hackers qui se sont trouvés un petit peu une vocation à la suite de ces attentats, et ils ont publié plusieurs guides, des petits guides pratiques. Alors c'est pas des informations extrêmement techniques, extrêmement complexes, mais qui permettent en fait à tout à chacun de comprendre comment un peu leurs opérations fonctionnent, et qui permettent, on va dire, à ceux qui veulent un peu s'engager de façon sur la toile, de savoir comment faire pour dénoncer un compte, de savoir aussi comment faire. Alors ça, c'est pas tout à fait légal, mais bon, quand on s'adresse à des terroristes, est-ce que c'est si grave que ça? Comment faire pour faire une attaque de déni de service distribué? Et effectivement, voilà, ils ont publié plusieurs guides sur internet pour faire ce genre de choses.
Le B.A.B.A. du hacker, en fait.
Le B.A.B.A. du hacker. Bon, alors Anonymous, ça reste Anonymous, ce ne sont pas des hackers d'un très haut niveau technique, mais ils peuvent quand même contribuer, pourquoi pas à lutter contre ces gens qui polluent la toile.
Cela dit, cette semaine est née une polémique concernant Anonymous, Eric, de la part du gouvernement et des autorités qui ont signalé que parfois, dans certaines circonstances, Anonymous pouvait ralentir en fait les enquêtes, parce qu'en fermant des comptes qui étaient surveillés, eh bien, les forces de l'ordre pouvaient perdre en fait des liens avec certains terroristes.
C'est un petit peu le problème d'Anonymous, c'est-à-dire qu'ils travaillent évidemment dans leur coin,
en solo,
sans forcément référer à d'autres, et notamment au pouvoir. Et d'ailleurs, c'est plutôt des anarchistes,
ils
ont plutôt une logique anarchiste, et c'est vrai que dans certains cas, effectivement, ils peuvent aussi empêcher ou poser problème à certaines enquêtes. Donc c'est vrai qu'il faut faire aussi attention à ce qu'on fait sur Internet, même quand on veut faire le bien.
Très bien, on va enchaîner avec un sujet un petit peu plus léger malgré tout, parce que la vie continue. Et on va parler de cette annonce qu'a faite SFR il y a quelques jours de cela, et qui est active depuis peu.
Oui, depuis le 17 novembre.
Depuis le 17 novembre. Voilà, il y a un Netflix à la française maintenant, et il est signé SFR,
voilà,
Eric.
Il s'appelle Zive. Alors, c'est un Netflix à la française, effectivement. C'est un site de SVOD, donc vous abonnez pour à peu près 10 € par mois, et puis vous avez accès à un catalogue en illimité de films et de séries. C'est 5 000 pour l'instant sur Zive, c'est à peu près 5 000 films et séries, dont particularité de la 4K. Alors Netflix en fait aussi un peu pour un peu plus cher, mais des films en 4K, des contenus 4K. Et ce qui est intéressant dans cette offre, c'est que c'est aussi, il n'y a pas que Zive, le service de SVOD, c'est aussi une box en fait que SFR a lancée, une nouvelle box en fait que SFR estime être la plus puissante du marché. Et donc elle a été aussi lancée cette semaine, uniquement pour l'instant aux clients fibre SFR, ou seulement déjà aux clients SFR, mais effectivement... c'est effectivement une box très puissante, puisque
qui est surboostée,
qui gère la 4K, qui a 8 tuners pour pouvoir zapper
très vite, un super wifi vous permet de télécharger très vite,
voilà, au top de la techno, qui est pas donné par contre parce que c'est beaucoup plus cher qu'une offre, même s'il y a une offre pendant un an qui est à peu près au même prix que la concurrence, mais
après,
au bout d'un an, ça monte un peu.
En revanche,
c'est du premium.
On a accès à ce catalogue qui est compris, en fait. Hein, ces 10 € sont compris dans l'abonnement.
On a accès à ce catalogue Zive. Et donc voilà. Donc maintenant, SFR, c'est à la fois Zive Box, il appelle la Zive Box, c'est son petit nom. Et puis, un service de VOD qui est pour l'instant aux abonnés SFR, et réserve aux abonnés SFR, mais qui va être ouvert à tout le monde très bientôt.
Voilà. Particularité aussi de ce service, c'est que on peut télécharger le contenu pour le regarder hors ligne. Vous savez, alors ça existe sur Canal Play, il faut le saluer quand même parce que c'est vraiment bien. Mais malheureusement, ça manque cruellement sur Netflix
qui se refuse absolument à le faire.
Alors que quand on prend l'avion, quand on est dans les transports, même un TGV, impossible de regarder en 3G ou en 4G un contenu. C'est d'ailleurs complètement stupide.
C'est vrai.
Donc voilà, on peut pas télécharger le contenu sur Netflix. Mais avec Zive, on peut le faire.
On peut le faire.
Très bien. On va terminer avec un anniversaire.
Oui.
Hier,
ouais.
Windows avait été ses 30 ans.
Eh oui, c'était les 30 ans de Windows hier. Alors, ça commence.
Alors, il y a 30 ans, c'était quoi?
C'était Windows 1.0. Vous pouvez voir d'ailleurs sur 01net, on a fait un historique de Windows. Hein,
Est-ce que je peux l'installer sur mon ordinateur?
Alors, ou avec un émulateur peut-être.
D'accord.
C'est vrai qu'aujourd'hui, ce serait un peu compliqué de l'installer sur une machine moderne, mais Windows effectivement est né en octobre 85 et à l'époque, c'était en fait, on se plonge un petit peu dans le temps. Windows était la deuxième interface graphique qui marchait sur un ordinateur personnel après celle d'Apple. Hein,
il y avait la souris déjà ou pas?
Il y avait pas de gestion de la souris dans le premier Windows, non.
C'est arrivé un peu plus tard,
mais ce qui est intéressant, c'est de voir que par contre, Apple et son Macintosh en 84, l'année d'avant, avaient déjà un ordinateur personnel avec une interface graphique, et c'est de là que vient effectivement le fameux Windows nous a tout copié. mais Windows a beaucoup évolué avec le temps. Hein. Windows 1, en fait, c'était à peine utilisable, c'était vraiment pas terrible. Et puis Microsoft a continué. A réussi à avoir un business model incroyable avec ses vendeurs d'IBM PC compatibles, hein. Et donc finalement on s'est retrouvé très rapidement avec des Windows sur des millions de machines, alors que Apple a préféré un autre modèle, celui de garder la machine la machine avec le logiciel.
Et puis Windows 95 qui est arrivé en 95,
exactement.
Était un peu l'explosion.
C'était l'explosion. Windows 95, ça reste le Windows que tout le monde, duquel tout le monde a connu un petit peu ce logiciel.
Ça a été la démocratisation de l'Internet, hein, de l'informatique.
De l'informatique et d'Internet qui commençait à l'époque. Il y avait Internet Explorer qui était livré. Pas avec Windows 95, mais avec Windows une extension.
Un mot sur le mobile, malgré tout, Eric, pour terminer. Voilà, parce que c'est vrai que maintenant, depuis peu, Microsoft joue à fond la carte du mobile avec les Lumia. Là, c'est un anniversaire un peu en demi-teinte.
Voilà, alors c'est vrai qu'on arrive à Windows 10 maintenant, et Windows 10 est aussi disponible sur mobile. Là, il y a des nouveaux smartphones sous Windows 10 qui vont arriver. Et le problème, c'est que pour l'instant, on va dire que c'est un échec. Hein. Microsoft ne décolle pas sur mobile, et même pire, il est en train de s'effondrer. Sachant que voilà, l'Institut Gartner vient de publier des chiffres du troisième trimestre 2015 des parts de marché de smartphones. Toujours pareil, Android cartonne, Apple dans une moindre mesure, mais cartonne aussi. Par contre, pour Windows, ça se passe beaucoup moins bien, puisque Windows, qui était à 3% de parts de marché l'année dernière, perd complètement pied. On arrive plutôt à, pardon, je me trompe, à 3% de part de marché, pardonnez-moi,
oui.
L'année dernière, on arrive à 1,7% de part de marché.
Donc, pratiquement
ce
50% de
cette année. C'est vrai qu'il va falloir que Microsoft se réveille et aussi que les développeurs s'intéressent à Windows, parce qu'il manque d'applications sur Windows mobile. Donc voilà, on va voir si avec ces nouveaux smartphones qui sortent là, Microsoft va pouvoir relever la tête.
Et est-ce que c'est pas trop tard aussi?
Oui, exactement, puisqu'on voit aussi que BlackBerry, hein, qui était l'ancien roi du smartphone, est en voie de disparition.
Exactement. Merci beaucoup Eric Le Bourlou, rédacteur en chef du Pôle Actu sur 01net.com. L'atelier revient et se termine dans un instant, avec entre autres le crash test d'Antonin, tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Marie Noni. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le point de départ du crash test d'Antoine Cyr qu'on va retrouver dans un instant. Antoine, vous êtes prêt?
Oui.
Pour Marie Noni?
Oui.
Voilà. Mais auparavant, c'est Lila Megraoua que nous retrouvons pour son alphabet du numérique, Lila.
Mais oui, François, je vais vous parler de net étiquette, ou plutôt ce qu'il en reste. Puisqu'on pourrait dire comment, à l'heure de l'information, à temps réel, des centaines de mails adressés et à traiter, à l'heure de la curation, de la transmission de liens, de l'info-obésité, du commentaire élevé au rang d'info, y a-t-il encore la place, je dirais même le temps, d'être poli? En 1995, on a une certaine Sally Hambridge qui officiait chez IBM à l'époque et qui s'était penchée sur le sujet pour concevoir une espèce de contrat social du numérique qui constituait un guide des bonnes manières, la netiquette. 1995, vous imaginez le florilège de vérité ou plutôt préceptes éculés. Alors, je vais vous en citer quelques-uns. Ne saturez pas le réseau en vous connectant sur des sites pour lesquels vous n'avez que peu d'intérêt. Coucou, Minute Buzz, BuzzFeed et autres 9gag. Deuxième citation. Envoyer du courrier électronique à un correspondant peut aussi lui coûter en termes de bande passante, espace disque ou ressources machine. Coucou ADSL fibre optique. Ou encore, il vaut mieux envoyer de courts courriers pour chaque sujet qu'un long message contenant plusieurs sujets. Coucou, monde du travail, première édition. Et enfin, si vous divulguez dans un groupe une partie d'un courrier personnel, vous devriez d'abord en demander la permission à votre correspondant. Coucou, monde du travail, deuxième édition. Autant dire que la netiquette est quelque peu à la ramasse. La réponse sera-t-elle ou serait-elle dans les algorithmes ? Parmi tous ces petits outils numériques qui prétendent vous assister à être plus poli, élégant sur Internet, vous avez l'application Crystalnose qui propose tout simplement une forme de, non pas de correction orthographique, même si on peut considérer que l'orthographe est une forme de politesse, bien oubliée aujourd'hui, mais Crystalnose propose donc une correction comportementale, à savoir que lorsque vous écrivez un mail, donc à partir du nom de votre destinataire, Crystalnose va scanner sur le net l'expérience de votre interlocuteur et établir un profil type. Et en fait, selon ce profil type, va vous suggérer le ton de vos mails, à savoir, est-ce que cette personne va préférer des phrases courtes ou longues ? Est-ce que vous entretenez aujourd'hui une relation suffisamment proche pour justifier d'un mail au langage familier ou soutenu? Elle va vous proposer certaines formules de politesse. Bref, Crystalnose prétend corriger votre comportement dans vos mails. Alors, au final, c'est un peu le chat qui se mord la queue, puisque c'est le numérique qui prétend répondre à une problématique, à un problème causé par le numérique.
Merci beaucoup, Lila. Et après donc ce rendez-vous avec Lila Megrawa, place au crash test d'Antoine. Antoine, est-ce que vous êtes prêt ?
Oui.
Le point de départ de ce crash test, c'est vous qui l'avez choisi, hein ?
Ah oui.
C'est Marinoni.
Eh oui, Marinoni. Il fut un temps où les Marinoni faisaient rêver.
Ah, donc il y en a eu plusieurs.
Ah oui, il y en a eu plusieurs des Marinoni.
Ah.
Alors c'est pas Marinoni.
C'est pas Marine Oni.
Et c'est pas non plus Marine Oni. Elle n'a pas de raison d'être Oni, Marine.
Ben non, la pauvre.
Et non. Ce sont les Marine Oni. Les Marine Oni.
C'est des petites pattes, c'est ça?
Et pas du tout.
Pas du tout. Non.
C'était d'énormes rotatives.
D'énormes rotatives?
Et oui. Témoin d'une époque qui commence un peu à s'éloigner, celle où le papier était roi, celle où l'information circulait par les journaux, les oui. porteurs de journaux, les crieurs de journaux.
L'encre était là.
L'encre était, voilà, alors elle est toujours là un petit peu,
oui,
faut pas non plus.
Attendez, oui.
Voilà, hein, faut pas, voilà. Mais quand même, il y avait, autrefois, il y avait ce qu'on peut appeler une espèce de majesté de la rotative,
oui.
une espèce de pouvoir de la rotative. La rotative, c'était, si vous voulez, la rotative était au XXe siècle ce qu'au XXIe sont les serveurs.
Exactement.
C'est-à-dire que la machine mère
oui.
qui permettait à la
l'information se créer les
exactement,
à cet endroit-là.
Exactement. Et donc il y avait les rotatives et au fond la rotative elle est quand même en train de perdre cette espèce d'empire qu'elle avait sur le monde.
Elle tourne un peu moins rond.
Et donc c'est intéressant de voir justement quelle est la trace laissée sur la toile par Marinoni. Car Marinoni, maintenant, vous l'avez compris, ce fut le pape de la rotative. Et pendant des années, une Marinoni était à la rotative ce que le frigidaire était au réfrigérateur.
Ah oui, c'est le top du top.
Absolument. Alors, peut-être que certains de nos auditeurs ne savent pas ce qu'est une rotative. Donc, pour eux, nous allons maintenir le suspense encore quelques instants. Donc, Hippolyte Marinoni était né en 1823 à Paris. Il était d'origine italienne, comme peut le laisser supposer son nom. Mais enfin, quand même, son père, Ange Joseph Marinoni, avait été dragon des armées napoléoniennes. Donc, c'était quand même une famille installée en France depuis longtemps. Et donc, le petit Hippolyte Auguste Marinoni avait commencé au bas de l'échelle comme apprenti. Et puis, petit à petit, il s'est mis à inventer des machines. Alors d'abord, il a inventé une machine à décortiquer le riz et le coton. Et puis, d'un seul coup, il est arrivé chez un fabricant de machines typographiques qui s'appelait Pierre-Alexandre Gaveau. Et là, il fabrique sa première presse à deux cylindres, la presse dite à réaction.
Oula.
Voilà. Et pour cause, elle imprime quand même 1500 feuilles à l'heure, ce qui, à l'époque, était tout à fait, évidemment, considérable. Donc, ensuite, Marinoni s'est mis petit à petit à créer des machines, de plus en plus de machines à impression. Et donc, en 1886, il dépose le brevet de la presse rotative à plieuse, qui est donc l'ancêtre de la rotative. Voilà. Puis ensuite, il va continuer à développer ses machines. Il va prendre la tête du petit journal. Il va devenir lui-même patron de presse. Et donc, la Marinoni va devenir vraiment le synonyme de la rotative. Alors, il a aussi aidé Étienne Lenoir, qui est un des ancêtres de l'automobile. Donc, à un moment, c'est devenu quelqu'un de vraiment très puissant. Alors, quelle trace a laissé Marinoni? Quand on tape Marinoni sur Internet, on trouve vraiment des sites, mais des sites assez spécialisés, notamment le site du musée de l'imprimerie, et puis des petites notes historiques, par exemple une note historique qui nous raconte qu'il y a une année où d'un seul coup le progrès technique, la rotative Marinoni, va arriver dans tous les journaux et donc va complètement transformé la presse en quelques mois, quoi.
C'est une news qui avait fait couler beaucoup d'encre, je crois.
Voilà, oui, il a fait couler beaucoup d'encre, le camarade Marinoni. La société qui fabriquait les rotatives s'appelait Marinoni. Et en 1921, donc après la mort de Marinoni, qui était mort en 1904, il y avait toujours cette société Marinoni. Et donc, sur les rotatives qui continuaient d'arriver dans les journaux, ça c'est le site du musée de l'imprimerie qui nous le dit, il y avait toujours, bien sûr, cette marque Marinoni. En 1921, la société anonyme Marinoni fusionne avec un autre fournisseur de machines qui s'appelle Voirin et qui se trouvait à Montaterre dans l'Oise. Et là, on va retrouver à Montaterre dans l'Oise une société qui s'appelle Marinoni Voirin.
Ah oui, d'accord. Donc c'est la fusion des deux.
Voilà. Donc, à partir de cette période, donc à partir de 1921, si vous êtes acheteur d'une rotative, si vous commandez une rotative à votre femme pour Noël, elle va voir arriver une Marinoni Voirin.
Cela dit, vous vous êtes pas moqué d'elle à ce moment-là, parce que c'était le top du top.
Voilà,
hein, à l'époque.
Rappelons quand même qu'une rotative, donc qui imprime des journaux, c'est un truc qui doit peser 47 tonnes.
Voilà, c'est ça.
Voilà, c'est une machine
et qu'on stocke dans des hangars.
Et qu'on stocke dans des hangars. Et c'est peut-être 470 tonnes d'ailleurs. C'est
peut-être. Ouais.
Voilà. Bon. Et puis donc en 1963, c'est un groupe américain qui rachète Marinoni Voirin. En 1988, c'est un groupe allemand, Heidelberg Druckmaschinen AG, qui rachète Marinoni. Donc vous voyez quand même, on fait un sacré
voyage
tour d'Europe. Voilà. Et puis donc la dernière trace de Marinoni, la plus ancienne que j'ai trouvée sur Internet, c'est celle c'est une note dans un journal du graphisme qui nous explique donc que historiquement héritière des sociétés Creusot-Gosse à Nantes et Marinoni Harris Heidelberg à Montaterre, donc toujours cette usine de Montaterre, Gosse International France fabriquait sur ses sites de Nantes et Montaterre des rotatives d'imprimerie, notamment les Sunday bien connus. Il paraît que c'était voilà le nec plus ultra, c'était d'avoir une Sunday. Mais donc cette information que j'ai trouvée sur le net et qui date de 2013, nous apprend que lorsque cette société Gosse International Europe reprise, elle va abandonner la production de rotatives à Montaterre et donc elle s'engage dans la production de ces fameuses rotatives, les Sunday, les héritières des Marinoni aux États-Unis. Et donc la production va être délocalisée aux États-Unis.
Donc la marque Marinoni n'existe plus.
Donc la marque Marinoni n'existe plus, mais en plus le site Marinoni n'existe plus. Voilà. Et donc c'est comme ça que vous imaginez. Je dis ça parce que Marinoni, c'est vraiment à l'époque de l'essor de la presse, c'est probablement l'équivalent de ce qu'est Google aujourd'hui.
Et oui, bien sûr. Oui. Alors peut-être que Google disparaîtra dans un siècle.
Peut-être.
Merci beaucoup Antoine. Cet atelier numérique est terminé. Merci d'avoir été avec nous pendant ces deux heures. On sera là bien sûr le week-end prochain. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à vous tous.